Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Subitement, presque comme si elle se réveillait d'un sommeil sans rêve, Luisa Morales sursaute et ouvre ses yeux en grand. Elle est plongée dans une obscurité presque totale, mais en se redressant et en tâtonnant autour d'elle, Luisa se rend rapidement compte qu'elle se trouve dans une baignoire en fonte. Son esprit est confus, mais des souvenirs lui reviennent par flash. Une morsure, la sensation que son cœur s'arrête, la nuit, puis un goût féreux, étrangement addictif. Luisa sent qu'en elle, quelque chose ne va pas. Elle ressent comme un incroyable vide qui demande désespérément à être comblé. Luisa a vécu dans la rue pendant des années, et il était rare qu'elle puisse manger à sa faim, mais ce qu'elle ressent là est bien plus profond et déstabilisant. Atlas, c'est toi qui incarne Luisa, que fais-tu ?
Je regarde autour de moi, j'essaie de comprendre où je suis, de voir si je vois quelque chose en fait, tout simplement. Je cherche un repère, je cherche à comprendre, tout simplement. Et potentiellement à trouver quelque chose pour combler cette faim, cette chose au fond de moi qui me tiraille les entrailles.
T'essayes de prendre un peu tes repères, t'es dans le noir total. Par contre, tu te rends bien sûr compte que tu te trouves dans une salle de bain, quelque chose comme ça. Et tu parviens à t'extirper sans trop de problèmes de la baignoire.
Je cherche un interrupteur, de quoi allumer une lumière. Parce que je dois pas voir grand-chose.
Tu tâtonnes encore à nouveau et tu parviens à trouver l'interrupteur de l'éclairage. Il y a une lumière froide qui éclaire alors subitement la petite salle de bain. Les murs et le sol sont recouverts d'un carrelage vert pâle dont les joints semblent usés par endroits, mais la pièce semble plutôt propre, en tout cas bien plus que les squats dans lesquels Luisa a pu se retrouver par le passé. Face à elle, il y a un miroir qui lui renvoie sa propre image. À Atlas, à quoi ressemble Luisa et que portait-elle comme vêtement le soir de sa disparition ?
Luisa, quand on la croise dans la rue, elle peut un peu impressionner, elle peut un peu faire peur. C'est une femme au trait très fin. On voit qu'elle a manqué sûrement d'alimentation durant sa jeunesse. Elle a les cheveux très courts, coupés en carré. D'ailleurs, coupés à la va-vite, à la main, elle se les coupe elle-même, donc c'est pas très structuré, disons. On voit des traces de décoloration, de coloration par-ci par-là, on sait pas trop actuellement quelle couleur elle porte. Je pense qu'actuellement, ça a quelque chose de reflet bleuté, mais vraiment, c'est pas très clair. Elle a des piercings un peu partout. Elle a les yeux vert clair, dans lesquels on peut se perdre. Et elle est habillée de manière plutôt sobre, ce qui détonne avec le reste de son apparence. Parce que là où elle pourrait avoir une apparence assez punk, finalement, elle est habillée de manière plutôt classe ce soir. Comme si elle était... Enfin, ce soir, aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure il est. En tout cas, il était le soir quand elle est sortie comme ça, habillée de manière plutôt bien. Elle a même lâché sa veste de cuir qu'elle porte tout le temps pour mettre une veste de costard parce qu'elle emmenait la nuit dernière la femme qu'elle aime au restaurant, en fait, tout simplement, et aller voir une pièce de théâtre improvisée dans un bar qu'elle côtoie toutes les deux. Mais rien ne s'est passé comme prévu, a priori. Et là, ses vêtements sont un peu déchirés, je suppose.
Ils sont un peu froissés, mais ce qui attire peut-être le plus son attention, c'est la trace de sang séché au niveau de sa gorge qui paraît un peu surprenante puisqu'il n'y a pas de plaie.
Je touche du doigt cette marque. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas, je comprends pas. C'est le flou dans ma tête. Mais la première pensée, du coup, en voyant ma tenue dans le miroir, c'est de me dire « Mais où est Pilar ? Où est ma femme ?» En fait. Et du coup, je sors précipitamment de la salle de bain pour voir où je suis et partir à sa recherche. Parce qu'il n'y a rien d'autre de plus important que ça.
Alors, juste au moment où Louisa s'inspecte un petit peu comme ça dans la glace et qu'elle regarde la trace de sang sur sa gorge, elle se rend compte de plusieurs choses tout de même. Déjà, sa peau est bien plus pâle qu'à l'accoutumée et ça lui donne un petit peu un air malade.
Ouais.
Ça, je pense qu'elle s'en est rendue compte avant, du coup, de se ruer vers la porte.
Ok. mais ça passe en arrière-plan, je pense.
Je pense, oui, bien sûr. Elle ouvre la porte d'un coup. Celle-ci n'était pas verrouillée, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Et elle se retrouve dans une chambre de motel, un peu vieillotte. Les murs sont couverts de lattes de bois, la moquette verte est usée, et le lit est recouvert d'un drap dont la couleur douteuse se retrouve sur les rideaux qui couvrent entièrement la fenêtre. Ce qui interpelle immédiatement Louisa, c'est plutôt la jeune femme en sous-vêtements qui est en train d'enfiler une chemise rouge avec une espèce de grosse cantine métallique à ses pieds. La jeune femme s'arrête dans son mouvement en voyant la porte s'ouvrir brusquement. Elle a l'air surprise, mais Louisa ne l'est pas moins puisque cette femme, elle la connaît. Elle l'a déjà croisée dans les milieux queer de la ville et elle se rappelle distinctement avoir eu quelques discussions assez intenses au sujet de sa transition de genre avec elle. Elle s'appelle Wendy et c'est une femme plutôt séduisante, de taille moyenne, aux cheveux bruns coupés courts et rabattus sur le côté en une ample mèche.
Ben, je m'interromps à cette porte, très étonnée, très choquée peut-être de la voir là, surtout d'être dans la même chambre de motel qu'elle, surtout si elle est en train de s'habiller. Wendy ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oui, Pilar, qu'est-ce qui s'est passé ?
Wendy ne termine même pas de boutonner sa veste et elle se rue au devant de Louisa pour venir la prendre par les mains comme prise par un sentiment d'exaltation. Ah, c'est pas vrai, ça a fonctionné, ça a fini par fonctionner.
Je la repousse un peu violemment et en reculant du coup d'un pas dans la salle de bain. De quoi tu parles ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors que tu la regardes avec une certaine défiance, tu sens quand même qu'il y a quelque chose d'étrange avec elle. Tu sens comme une profonde familiarité avec elle, une sorte d'inclinaison naturelle que justifie pas forcément les rares interactions que vous avez pu avoir ensemble. C'est vraiment une inclinaison positive qui te positionne plutôt favorablement envers elle.
Je secoue la tête et je reprends un peu mes esprits. Enfin, j'essaye et je la dévisage, j'essaye de comprendre déjà d'où ça vient, parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de sentiment. Et quoi qu'il arrive, je lui repose ma question, peut-être encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé, Wendy, où on est ? Explique-moi.
Viens t'asseoir, y a beaucoup encaissé, c'est un peu compliqué.
J'ai pas le temps de m'asseoir, il faut que j'aille chercher ma femme. Explique-moi vite. Où est Pilar ? J'étais avec elle hier soir. Si je suis là avec toi, qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle te fixe dans les yeux. Et là, c'est comme si les souvenirs de la soirée précédente se réarrangent. Et au moins pour un temps, l'idée que Pilar ne soit pas là, qu'il soit arrivé quelque chose à Pilar, va disparaître de l'esprit de Louisa. Ça change un petit peu son appréhension de la situation. Pour elle, dans son esprit, elle était allée voir un spectacle seule. Elle avait vu Wendy plus tard. Elle a un vague souvenir de la rue derrière la salle de spectacle. Elle a un vague souvenir, du coup, aussi de la violence qu'elle a pu ressentir au moment où des crocs se sont penchés sur elle. Mais la situation de Pilar dans ce récit est complètement mise de côté, comme si il n'y avait pas à se soucier de ça pour le moment. Mais là, pour le moment, Louisa est peut-être rassurée par l'idée que, a priori, il n'y a pas de souci avec Pilar. Et juste, il s'est passé quelque chose hier soir. Et Wendy est liée à tout ça.
Du coup, j'ai un peu la tête qui tourne, je pense. Je refais un pas en avant vers Wendy en me tenant au contour de la porte. Et je regarde Wendy et je dis, qu'est-ce qu'on fait là ensemble ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive pas à me souvenir.
Allez, viens avec moi, viens avec moi. Elle te prend par le bras et elle vient t'aider à t'asseoir sur le lit.
Je la laisse faire.
Bon, je dois être totalement franche avec toi. Il s'est passé quelque chose hier soir, mais pas ce que tu sembles imaginer. Je t'ai fait un cadeau.
Un cadeau ?
Oui, voilà. À partir de maintenant, tu es une kénite. Tu vas pouvoir t'extirper de ton cocon mortel pour laisser épanouir ce que ce corps refusait de laisser voir au monde.
Une kénite ? De quoi tu parles ? Je comprends pas, De quoi tu parles ?
Les gens nous appellent assez vulgairement des vampires, mais nous sommes les descendants d'une lignée divine qui remonte à l'origine des temps. Tu ne vieilliras plus, tu pourras récupérer de n'importe quelle blessure, tu développeras des pouvoirs plus puissants que ceux dont tu as jamais pu rêver. Tout ça, c'est quelque chose que je t'ai offert car je t'ai choisi. Je sais que tu es quelqu'un qui mérite ce don. Toi, tu sais ce que c'est que se battre pour exister, pour affirmer qui tu es. Moi et mes alliés, nous sommes justement dans une situation où on a des ennemis qui incarnent tout ce que tu détestes et je suis sûr que tu feras des merveilles à nos côtés.
Au fur et à mesure qu'elle parle, je me recule sur le lit tout en restant assise, mais un peu en me roulant en boule contre la tête de lit, assise contre la tête de lit, le dos plaqué contre le mur à fixer Wendy. Je pense que pour une des premières fois de ma vie, je suis aussi perdue qu'à mon adolescence, et peut-être encore plus perdue que le jour où je suis partie de chez moi. Je la fixe, je la lâche pas du regard, et je lui dis mais pourquoi moi, pourquoi ça, pour mais les vampires n'existent pas. De quoi tu parles? J'ai envie de te croire. Je sens que tu as raison. Mais pourquoi tu m'as fait ça? J'étais heureuse pour la première fois de ma vie. Et maintenant, ça va tout changer.
Écoute, c'est vrai que ça doit être beaucoup pour toi, mais tu verras, tu me remercieras un jour. En attendant, tu dois mourir de faim. Ça fait plusieurs jours que j'attends que tu te réveilles.
Plusieurs jours? J'ai passé plusieurs jours dans cette salle de bain?
Oui, c'est pour le moins inhabituel. Au début, j'ai cru que mon sang n'avait pas été suffisamment puissant pour te réveiller.
Je suis censée boire du sang? Ton sang?
Tu vois qu'elle porte son avant-bras au niveau de sa bouche et t'entends une déchirure comme si sa peau était percée. Elle finit par révéler la plaie à Louisa pour l'inviter à se nourrir.
Je pense que je peux pas m'empêcher de sauter dessus et de boire.
C'est très difficile pour toi, effectivement.
Je sais ce que c'est que d'avoir faim.
Ouais.
Et là, la faim est encore plus forte du fait que ce soit du sang et que je sois une vampire. Et que, en plus, j'ai pas mangé même de la nourriture normale, quoi. Donc.
Tout à fait. Et puis là, en tant que vampire nouvellement étreint, t'as très peu de sang en toi. Du fait qu'en plus, plusieurs jours ont passé sans que tu te réveilles. Là, tu serais à l'équivalent d'un niveau 4 ou 5. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour toi de te contrôler à la vue du sang.
Mm-hmm.
C'est quelque chose que tu as du mal à gérer. Et tu sens vraiment qu'en toi, il y a cette bête qui a faim, qui a soif, qui t'accompagne. Et en même temps, presque prend les rênes quand tu ne fais pas attention à la contrôler.
Je me rapproche du coup de Wendy précipitamment et je vais m'abreuver de son sang à son bras sans réfléchir, quitte à peut-être même aggraver un peu plus sa plaie que prévu.
Je pense que du coup, instinctivement, Louisa va produire ses crocs.
C'est ce que je pensais.
Quelque chose dont elle va se rendre compte au moment où ils vont pénétrer la chair de Wendy. Et elle va commencer à se nourrir à ce sang qui est un sang de vampire, du coup, pas un sang de mortel. Ce qui fait que c'est une expérience très intense. Le sang de vampire, c'est quelque chose qui est vraiment prodigieusement délicieux pour un autre vampire. Ce qui fait aussi que les vampires deviennent parfois les proies de leurs semblables. Et elle sent que cette faim qui l'a perturbée depuis tout à l'heure diminue à mesure qu'elle prend des gorgées de ce sang épais. Et elle sent particulièrement bien au moment où elle finit par lâcher l'avant-bras.
Je me sens, ouais, presque, je pense, un peu high. Enfin, de ce que tu me décris.
Je pense que ça peut être un peu l'expérience.
Et du coup, je re-recule un peu... à la fois pleine de contradictions, et je pense que ça se voit et que Wendy le sent, à la fois dégoûtée de ce que je viens de faire et ayant très envie de recommencer, quoi. De regoûter de nouveau à un sang aussi bon et de ressentir de nouveau cette exaltation.
Wendy va porter à nouveau son avant-bras à sa bouche, et là, avec... un simple mouvement de la langue, elle va lécher la plaie qui va se refermer entièrement. Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais je crois qu'on n'échappera pas à une petite chasse ce soir. Écoute, reste ici, je vais essayer de nous trouver quelqu'un.
Et elle part ?
Elle va terminer de mettre sa tenue, du coup, parce qu'elle était toujours en sous-vêtements avec juste sa chemise rouge. Et elle va finir de mettre l'espèce de tailleur type femme d'affaires un peu stricte qu'elle avait posée sur le lit. Elle va mettre sa tenue, s'assurer que Louisa est à peu près calmée. Ouais.
Pour l'instant, je suis toujours assise sur le lit, un peu roulée en boule, à regarder Wendy s'affairer.
Wendy, elle a un sourire assez confiant sur les lèvres. On voit que c'est une femme qui a plutôt l'habitude d'être dans le contrôle. Elle finit de se préparer, elle adresse un nouveau sourire à Louisa et dit « Je ne devrais pas être longue, ne bouge pas d'ici ». Et elle va sortir de la chambre de motel. Louisa va entendre le verrou se mettre à la porte.
Ok, je vais compter les secondes, les minutes. Et au bout de 5 minutes après le départ de Wendy, je vais pousser par mon incapacité à, à respecter le moindre ordre et pousser par ma crainte, par tout ça. Enfin, c'est beaucoup trop de changements et j'ai besoin de partir. Je ressens une profonde pulsion à m'enfuir d'ici. Et je sens que si je reste là, je vais en plus tomber sous le contrôle de Wendy. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui se mélangent dans ma tête. Pas tant de tout ce qui est vampirique, mais vraiment purement de ce qui vient de ma personnalité.
Je pense que la prise de conscience aussi, que ça fait plusieurs jours qu'elle est là, peut peut-être jouer.
Ouais, carrément. Et je sais que je dois partir d'ici et que je dois... Enfin, ouais, il faut que je parte. Je dois partir, parce que c'est pas moi d'attendre comme un petit agneau qu'on me ramène quelque chose à manger. Et donc, je vais essayer de sortir de là. Et donc, pour ça, ça veut dire sûrement essayer de crocheter cette porte ou de la casser très violemment. Je ne sais pas lequel, lequel me semble le plus évident sur le moment.
Alors, c'est pas une porte qui est très sécurisée. Et Louisa, elle possède 3 en dextérité et 2 en larcin, ce qui est tout à fait suffisant pour estimer qu'elle parvient à ouvrir cette porte sans problème.
Ok. Bah je crochette du coup la porte, parce que j'en ai crocheté 1000, des comme ça. Les portes de motel vides pour pouvoir dormir à l'abri un soir d'hiver. J'en ai déjà crocheté des milliers. Et donc du coup, je sors de ce motel et je pars en courant. J'essaye de repérer où je suis. Est-ce que je connais ce motel ? Est-ce que je sais où je suis dans Chicago ? Est-ce qu'on est encore à Chicago même ?
Le motel en lui-même ne te dit rien. Par contre, tu vois les panneaux un petit peu dans la rue qui indiquent des grandes directions qui te sont familières.
Ok.
Donc, même si c'est un peu compliqué de s'orienter et puis de se déplacer dans une ville américaine à pied, Louisa a plutôt l'habitude.
Ouais.
Et elle devrait pas avoir trop de soucis à retrouver son chemin.
Ok. Et bien, je pars et je pars en courant en direction du centre-ville et en direction surtout des quartiers que je connais, des quartiers dont je viens, qui a priori...
C'est South Chicago.
Ouais, c'est South Chicago. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder.
Ah, donc tu te diriges vers South Chicago, du coup, a priori, pour retrouver peut-être l'appartement de Pilar.
Ouais, oui, je vise carrément notre appartement en premier pour rentrer à la maison, quoi.
Très bien.
Surtout que je sais que Wendy n'a jamais été chez moi et ne connaît pas normalement d'où je viens.